Cet après-midi, j'aimerais juste partager un message très simple avec vous que j'avais intitulé « Tu as besoin du Saint-Esprit ». Ce titre est bon, mais le pasteur Romaric m'a suggéré un autre titre pour le message et je trouve qu'il est aussi très pertinent. Ce nouveau titre, c'est « Tu as le Saint-Esprit ». En fait, tu en as besoin parce que tu as oublié que tu l'as, souvent. Et j'aimerais vraiment, cet après-midi, simplement nous faire tomber. Je priais pour ça, j'ai dit « Saint-Esprit ». Viens faire tomber des mensonges qui nous empêchent de vivre pleinement ce que tu as pour nous. Vous savez, une des choses que Pierre a dit à cet homme qui était impotent à l'entrée du temple, il va lui dire « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Tu donnes ce que tu as, on est d'accord ? Mais parfois, tu ne donnes pas parce que tu as oublié que tu as. Tu as pourtant, mais tu as oublié que tu as. Et on va lire ensemble juste quelques versets. J'aurais pu lire avec vous tout l'évangile de Jean, chapitre 14, 15 et 16. Mais ça aurait fait un peu long, la célébration. Mais dans Jean, on va lire juste deux extraits. Il y en a un que je n'ai pas mis dans les diapos, mais je le lirai pour vous. Par exemple, Jésus va dire dans Jean, chapitre 14, versets 16 à 17, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » On va le dire ensemble, ça. « Afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est très important ce que Jésus est en train de dire. Là, dis à la personne à côté de toi, « Éternellement avec toi. » L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Quelques temps après, dans Jean chapitre 16, Jésus va dire un truc de dingue aux disciples, que nous on connaît, qu'on a lu plein de fois, qui nous semble totalement normal et logique. Mais Jésus dit aux disciples, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas prier le Père pour qu'il envoie l'Esprit auprès de vous. » Frères et sœurs, nous on est là, 2000 ans après, ce verset nous semble totalement normal. Mais je suis l'apôtre Pierre, au temps de Jésus. Jésus me dit, je vais m'en aller et c'est mieux pour toi. Qu'est-ce qui est mieux pour moi ? Seigneur, avec toi, je vis la puissance. Rappelez-vous, Jésus les a envoyés dans Luc chapitre 10 et quand ils reviennent, ils disent, on a vu ça, on a vu le diable nous être soumis et Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc la puissance se manifeste dans leur vie. Jésus même, dans l'évangile de Jean, il nous a dit qu'il a soufflé sur eux et ils ont reçu une dimension du Saint-Esprit. Et ils sont avec Jésus, physiquement avec Jésus. Qu'est-ce qui est mieux que d'être avec Jésus ? Et là, Jésus leur dit, non, il est avantageux que je m'en aille. C'est mieux pour toi, Pierre, que je parte. Pourquoi ? Parce que, et moi j'aime l'apôtre Pierre, parce qu'il il illustre tellement la différence du chrétien qui est saturé du Saint-Esprit et du chrétien qui effleure juste cette vérité, cette dimension. Pierre avait la puissance, Pierre avait la compréhension, la connaissance, et pourtant il était aussi Pierre capable de renier, capable de s'en aller, capable d'abandonner. Et après la Pentecôte, sa vie va changer radicalement. Il va devenir cette pierre dont Jésus parlait, ce fondateur, ce pilier, ce précurseur que Dieu avait destiné qu'il soit tout ça, parce qu'il a compris, parce qu'il a reçu une dimension du Saint-Esprit qui était plus grande. Et c'est pour ça que je veux vous rappeler cette vérité. Il est crucial de comprendre que le Saint-Esprit est avec moi. Il est crucial. Ce n'est pas une option. J'ai mis pour vous une phrase, je ne sais pas si elle est dans le diapo, mais le Saint-Esprit n'est pas un plus dans la vie du croyant. Dis à la personne à côté de toi, le Saint-Esprit n'est pas un plus. Le Saint-Esprit, c'est pas la cerise sur le gâteau. Le Saint-Esprit, c'est pas, bon, éventuellement, ça peut être un plus, c'est mieux pour moi s'il est avec moi. Le Saint-Esprit n'est pas un plus dans la vie du croyant. Si Christ est le fondement, le Saint-Esprit, c'est le souffle de vie. Tu peux passer ta vie à avoir un fondement, tu es déjà bien, tu commences bien. Mais rappelez-vous une chose, le but de Dieu n'est pas simplement que tu sois sauvé, mais que tu sois sauvé, que tu vives une super vie. Les amis, voici un grand secret, la vie chrétienne c'est sympa quand même. Bah. Dis à personne à côté de toi, non mais je t'assure. Et on va finir ce message, si Dieu le veut, par un verset, vous allez voir, qui m'a bouleversé, moi, cette semaine. Mais le Saint-Esprit est crucial. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et on a lu ensemble dans Jean 14, il demeurera éternellement avec vous, il sera avec vous, il sera en vous. Donc, la première chose que je veux vous dire, c'est apprends à vivre avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, mais tu dois apprendre à vivre avec lui. Je me suis marié, j'ai dû apprendre à vivre avec la femme qui habitait sous mon toi. J'ai eu des enfants, j'ai dû apprendre à vivre avec eux. Une personne qui rentre dans ta vie, tu dois apprendre à vivre avec elle. Tu ne peux pas te comporter comme un célibataire quand tu vis avec une femme. Oh, les dames, vous pouvez dire au moins amen. Fabien, tu verras, frère. Tu sais déjà. Mais c'est une réalité. Et le problème qu'on a souvent, c'est qu'on a oublié qu'on est marié. On a perdu cette connaissance, cette conscience. Alors, deux vérités simples que je vous rappelle, que Jésus dit aux disciples et que je veux vous rappeler à vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Tu peux le dire pour toi, il demeure avec moi et il est en moi. Et ça, c'est incroyable. Là, vous auriez dû faire la hola, sauter sur place, crier gloire à Dieu, parce que ça, c'est extrêmement puissant. C'est incroyable. Le Saint-Esprit, Jésus a dû mourir pour que j'en sois bénéficiaire parce que le prix est trop grand. Il fait partie de l'accès auquel je ne pouvais pas espérer sans le salut de Christ. C'était quelque chose de trop élevé pour moi en tant qu'être humain. Mais là, Jésus a ouvert la porte, il est venu avec moi, il vient en moi. Donc, deux vérités simples mais qui changent tout. Premièrement, il est avec toi et en toi. Il est avec toi et en toi. Deuxième vérité qui change tout, il est avec toi éternellement. Il est avec toi et en toi, il est avec toi éternellement. Donc le Saint-Esprit, je veux un peu vous provoquer parce que vraiment, il faut que Dieu nous décloisonne. Saint-Esprit, fais tomber nos raisonnements religieux, méritoires, qui nous empêchent d'entrer dans ce que tu veux, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas une onction. Ce n'est pas une puissance que je recherche. Je refuse et il est temps d'arrêter de croire que le Saint-Esprit, c'est un robinet qu'on ouvre, il me mouille, je distribue mon humidité et après je retourne au robinet, je me mouille, je me distribue. C'est pas ça la vie avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est avec toi. Ce n'est pas un vêtement, c'est pas une chemise de super pouvoir. J'ai reçu le Saint-Esprit au baptême du Saint-Esprit, on m'a mis une super chemise. C'est pas ça. C'est pas une onction, c'est pas un revêtement, c'est Dieu qui est avec toi. On doit faire tomber cette cloison, cette incompréhension, ce mensonge. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Je sais que vous le savez, je sais qu'on le sait tous, mais souvent on se comporte comme si c'était que ça. On confond la communion avec la manifestation. Si le Saint-Esprit est là, il se manifeste et tu en as le fruit. Mais tu ne peux pas avoir le fruit sans passer par la communion. Si tu cherches le bénéfice de la relation sans passer par la communion, ça s'appelle de la prostitution. C'est très différent, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais quand je cloisonne ma vie de cette manière, dans cette mauvaise compréhension, du coup, je cherche le Saint-Esprit pour obtenir quelque chose. Je le cherche pour une puissance quelconque. Je le cherche pour un don. Et je le cherche à un moment donné parce que j'en ai besoin. Mais quand je comprends qu'il est avec moi et en moi, alors je marche avec lui à tout moment. Donc il peut se manifester à tout moment, puisqu'il est avec moi. Je suis là, il est avec moi. Et vous savez, moi, là, je suis béni parce que pendant qu'on est à la fin de la louange, dit Saint-Esprit, on va prêcher tous les deux. Il est avec moi. Il est avec toi, à côté de toi. Il est en toi, il est sur toi. Tu ne peux pas t'échapper. La Bible dit que tu as été scellé. Vous savez ce que c'est sceller quelque chose? Tu as été scellé par l'Esprit de Dieu. Quand tu scelles quelque chose, c'est pour plus qu'on l'ouvre. c'est le gage que c'est authentique et c'est pour plus qu'on l'ouvre. Et moi, je veux te rappeler cette vérité, tu as été scellé. Donc, il est avec toi. Il est avec toi le matin, il est avec toi l'après-midi, il est avec toi quand tu dors, il peut être actif pendant la nuit, pendant tes journées. Il est avec toi. Il est avec toi quand tu es en train de faire ton jardin. Il est avec toi quand il y en a un qui te fait une queue de poisson sur l'autoroute. Il est avec toi en vacances. C'est pour ça qu'en fait, le concept de poste spirituel pour un chrétien, il n'existe pas. Parce que tu ne peux pas être un super chrétien ou un mauvais chrétien. Tu es chrétien, point. Il faut qu'on arrête, et ça, c'est un autre message qui arrive. Il faut qu'on arrête d'être super spirituel ou pas spirituel. Soit on est à 1000%, soit on est à zéro. Je veux vous dire qu'il est possible d'être chrétien, point. Tout le temps, il est avec moi. Il est avec moi quand je suis dans la piscine. Il est avec moi le 15 août, je vais aller plonger, faire de l'apnée. Il sera avec moi à 15 mètres sous la mer. Il sera avec moi. Il est avec toi tout le temps. Et ça, ça change tout. Ça s'appelle la communion. Et la communion, quand je comprends qu'il est là, je la développe à chaque seconde, à chaque moment. Elle est belle, elle est puissante à chaque instant. Je prends le Saint-Esprit, il est avec moi, il est sur moi, il est en moi, il m'a scellé. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, et là, je veux attaquer un grand mensonge du diable. Le Saint-Esprit, Paul dit qu'il peut être attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit. Là, Paul nous dit aussi qu'on peut le limiter. Il est question de ne pas éteindre le Saint-Esprit, mais le mot éteindre, c'est vraiment le mot limiter, contraindre. Donc tu peux attrister le Saint-Esprit, tu peux limiter le Saint-Esprit dans ta vie, mais je veux te dire une vérité simple. Le Saint-Esprit ne part pas de ta vie. On va répéter ça parce que je crois que le Saint-Esprit ne s'en va jamais de ta vie. Jésus a dit aux disciples, il sera éternellement avec vous. Il n'a pas dit quand tu seras très spirituel, il sera avec toi. Il n'a pas dit quand tu jeûneras beaucoup, il sera avec toi. Quand tu feras des réunions ciel ouvert, il sera avec toi. Il sera avec toi éternellement. Alors oui, dans tes mauvaises saisons, tu l'attristeras. Oui, dans les moments où tu te relâcheras, tu l'éteindras. Mais il ne s'enfuit pas, il ne part pas. Parfois, nous, notre relation avec lui, c'est comme si il vient, il s'en va. Et comme si toute la vie du croyant, il passe son temps à venir et partir, le Saint-Esprit. Il ne fait pas que des allers-retours, ce n'est pas ça son ministère. Il est avec nous. Et vous savez, ça, c'est une chose toute simple, mais si je la comprends, ça change toute ma vie chrétienne. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même dans les moments où j'ai été moins vaillant et que je me remets en marche, il est là. En fait, il est là, on va voir dans toutes les saisons, mais il n'y a pas de sas. Il est avec toi, il est sur toi. Vous savez, des fois, on a ce témoignage-là et vous l'avez certainement vécu. Des fois où tu n'es pas bien, tu es un peu loin de Dieu, ce n'est pas la folie. Et puis d'un coup, tu te sens un moment d'inspiration où il y a quelqu'un qui vient te voir, il veut que tu lui parles de Dieu, puis tu lui dis deux, trois trucs. Et on dirait que tu dis que des paroles inspirées. Ça ne vous est pas arrivé, ça, des fois? Et ça, c'est le signe même qu'il est là. Alors oui, il est attristé. Vous savez, il y a des moments donnés, mes enfants, ils sont attristés parce que je leur dis des choses, je leur donne des directives, je fais des choses, ça les attriste pour un peu de temps. Mais ce n'est pas pour autant que je les mets dehors de la maison. Donc arrête de te comporter comme si le Saint-Esprit te mettait dehors de la maison. Tu es toujours dans la maison, il est toujours là et il est toujours actif et avec toi. Donc ça, c'est un mensonge du diable. Il ne passe pas son temps à venir et partir. Il est éternellement avec toi. Le mot éternel, aion en grec, ça veut dire il est avec toi en tout lieu. Aion, ça veut dire trois choses, trois dimensions du temps. En tout lieu, c'est-à-dire partout où tu vas, il est avec toi. Tout lieu. Il est avec toi en tout temps. Donc verticalement, temporalement, il est avec toi en tout temps. Dans les saisons, quand tu es jeune, plus vieux, quand tu es au top, moins au top, il est avec toi tout le temps. Et il est avec toi dans tous les domaines, dans la dimension de ce monde. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas plus là quand nous, on est en train d'adorer maintenant que quand toi, tu pars au travail demain. Il est avec toi. Il est éternellement avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a à voir avec lui, sa fidélité, son caractère, sa caractéristique. Et parce qu'il est là, je peux être en communion avec lui. C'est un mensonge quand je me mets à croire qu'il peut s'en aller. Le diable veut te faire beaucoup croire, il veut me faire beaucoup croire qu'il peut partir. Il y a des gens qui sont littéralement traumatisés parce que, ce n'est pas mon sujet cet après-midi, mais parce que Jésus a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit, il y a des gens qui sont traumatisés dans leur vie chrétienne. Ils passent leur temps à se dire, est-ce que j'ai blasphémé ? Est-ce que... Non ! Déjà, si tu te poses cette question, c'est que tu ne le fais pas. Parce que celui qui le fait, il ne se pose pas la question. Donc le Saint-Esprit est en toi pour toi. Il est en toi pour toi. Il a été envoyé, il est avec toi. Et d'abord, premièrement, en toi pour toi. Il est en toi pour te consoler, pour te rebâtir, pour te délivrer, pour te transformer, pour te façonner. Et que le chantier est long. Ah, il y en a qui disent amen. Dis à la personne à côté de toi, c'est long aussi dans ta vie, toi. C'est pour ça qu'il est là, il doit travailler 100% du temps. Parce qu'il y a tellement de choses à travailler dans nos vies. Mais il est là, il travaille. Et quand je tombe, il vient pour me relever, pour me ramener à la vérité de la parole de Dieu, à l'amour de Dieu, à la compréhension de Dieu. Et il est avec moi et il travaille en moi. On va rentrer là-dedans dans quelques instants, mais le but du Saint-Esprit, c'est que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois. Mais le but, pourquoi Pierre n'a pas pu devenir Pierre sans la Pentecôte ? C'est parce que tu ne peux pas accéder à la version de toi imaginée dans le cœur de Dieu sans le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit est en moi, pour moi, il travaille en permanence pour m'amener à cette image qui a été rêvée dans le cœur de Dieu et il est sur moi pour que je sois une source de bénédiction pour les autres. C'est parce qu'il est sur moi que je peux prier pour un malade et qu'il est guéri. C'est parce qu'il est sur moi que je peux encourager quelqu'un et ma parole lui donne la vie, libère quelque chose. Parce qu'il est sur moi que je peux libérer les dimensions des dons de l'Esprit. En toi, pour toi, sur toi, pour les autres. Le Saint-Esprit, je dois apprendre à vivre avec lui. Il est là. Deuxièmement, je dois apprendre à recevoir de lui. Je priais cette semaine pour nous, et vraiment dans mon cœur, j'ai ressenti ça de la part du Seigneur pour nous tous, vraiment. Le Seigneur me disait que vous avez du mal à recevoir. Et je crois qu'on doit apprendre à recevoir. Nous, on aime recevoir quand on a mérité. Mais je veux te dire, tu dois apprendre à recevoir en tout temps. Parce que là, Dieu veut te donner quelque chose. Demain matin, la Bible dit que les choses sont renouvelées dans son cœur. Donc, il te donne quelque chose de neuf à chaque instant. Et le problème, c'est que des fois, Dieu envoie le cadeau, mais il n'y a personne qui attrape. Et je dois apprendre à recevoir ce que Dieu veut me donner. Je dois apprendre à recevoir. Donc, je ne peux pas juste être dans cette vie, comme je disais, où je reçois et je vide, je reçois et je vide, je reçois et je vide. Je dois apprendre à marcher avec le Saint-Esprit de manière à ce que je sois connecté à la source avec lui tout le temps. Il me donne sans cesse, je peux donner sans cesse. En fait, il n'y a pas de concept dans la parole de Dieu où c'est temporaire. Dans le Nouveau Testament, tu ne vois jamais l'apôtre Paul qui dit « Les gars, on s'arrête, il faut qu'on recharge les batteries ». À moins que le verset, j'ai loupé. Tu connais cet épître ? L'épître aux vacanciers, ça doit être celui-là. Je ne parle pas du corps, on a besoin de se reposer. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de cette vérité où tu peux être connecté avec Dieu et finalement, ça coule. Ça coule au travers de toi. Il n'y a pas des moments de gloire et des moments de disette. C'est juste la vie avec Dieu, en fait. C'est la vie chrétienne normale. Je suis connecté, ça coule. La source, elle est là en permanence. D'ailleurs, Jésus dit, il y a une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, je suis connecté et ça coule tout le temps. Ce n'est pas juste cette vie. Et ça, c'est quand on croit que c'est une puissance. Du coup, on s'approche pour recevoir, on donne. Et c'est toujours comme ça, en deux temps. Ce n'est pas ça, la communion. Éphésiens 5, versets 18 à 21. On va lire ensemble. Éphésiens 5, 18, 21. « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Le contexte, c'est Paul qui dit « Ne vous enivrez pas de vin. » Pourquoi Paul parle du vin ? Parce que le vin, quand tu t'enivres, c'est très temporaire. Il parle du temps. Il prend cet exemple, il dit « Celui qui s'enivre de vin, il a le bénéfice de l'enivrement pour un tout petit moment. » Le drame, ce serait qu'on vive le Saint-Esprit comme ça. On en a le bénéfice que pour l'heure après la célébration. Et après, c'est la gueule de bois. Du lundi matin, parce que du coup, on se sent vide et sec. Et on est plus déçu qu'autre chose. Donc il dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. D'autres traductions disent, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Le grec dit littéralement, soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas dire ça en français, parce que ce n'est pas français de dire ça. Tu ne peux pas utiliser deux fois des mots qui parlent de progressivité et de permanence comme ça. C'est soit rempli du Saint-Esprit au présent, comme c'est écrit là, soit continuellement rempli, ou soit en train d'être rempli. Mais le grec dit soit continuellement en train d'être rempli. Et là, Paul est hyper pragmatique. Il dit voilà comment tu vas vivre en tant que chrétien, une vie chrétienne en communion avec le Saint-Esprit. Entretiens-toi par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chante et célèbre de tout ton cœur les louanges du Seigneur. Rends continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, Paul nous parle de la possibilité d'être rempli du Saint-Esprit de manière constante. En gros, d'être en contact, en communion avec le Saint-Esprit constamment. C'est possible. Frères et sœurs, c'est possible. Si Paul nous donne une recette là, c'est que c'est possible. Ce n'est pas pourquoi Paul dit que nous devons faire des choses pour rester connectés. C'est pas parce que le Saint-Esprit s'en va, c'est pour que toi tu gardes conscience qu'il est là. Est-ce que tu comprends la différence? C'est pas pour le faire venir, c'est pour que toi tu prennes conscience qu'il est là. Il est là parce que tu peux pas l'enlever. Il est avec toi tout le temps, éternellement. Du mal à rentrer ça. Hein? Éternellement. Comment? Première clé pour nourrir ta communion avec le Saint-Esprit. Mais moi, j'aime parce que c'est très concret. Apprends à chanter des louanges. Chante des louanges. Belle voix, pas belle voix, chante quand même. Tu n'as pas besoin de ce groupe de musique pour chanter les louanges. Tu peux chanter des louanges de Dieu partout, dans ta voiture, sous ta douche, dans ton jardin, je ne sais pas moi, va où tu veux, chante. Si tu chantes vraiment super mal, mets-toi tout seul. Mais lui, Dieu aime ton chant. Les autres, peut-être, ils peuvent moins apprécier, tu vois, mais Dieu, lui, il aime ton chant, il aime ta voix. Romaric, amen. La louange, la célébration, je célèbre Dieu, et l'action de grâce. En fait, toutes ces choses-là me permettent d'avoir dans le cœur cette compréhension de cette permanence que le Saint-Esprit est là. Pourquoi c'est important d'insister sur ça? Parce que rappelez-vous ce que j'ai dit au début, tu ne donnes que ce que tu as conscience d'avoir. Si tu oublies qu'il est là, tu vivras une vie comme s'il n'était pas là. Mais ce n'est pas parce que tu vis une vie comme s'il n'était pas là qu'il n'est pas là. C'est ça la nuance. Et le diable, lui, son boulot, c'est de te faire croire qu'il est parti. Parce que tu n'es pas assez ci, pas assez ça, et que quand tu reviens à Dieu, et ça nous est tous arrivé, bon déjà, sois content de revenir à Dieu. Le Saint-Esprit, même pas en rêve pour toi. Moi, je me rappelle, une fois, je revenais à Dieu et je sentais même juste de parler en esprit, je ne le faisais pas. Je me privais de ça parce que je me disais, déjà, je reviens, c'est bien, quoi. Déjà là, on ne va pas pousser quand même. Et non, il est là. Il est avec moi. Tu chantes, tu célèbres, tu rends grâce. Ça maintient, ça nourrit ta communion. Et la deuxième chose, et ça c'est quelque chose de très concret, tu as besoin des autres. Donc, la femme ultra spirituelle remplie du Saint-Esprit, isolée, eh bien, elle n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. Parce que Paul dit l'inverse. Il dit que si tu veux t'entretenir dans cette communion, tu dois être les uns avec les autres. Il va même plus loin, il dit que tu dois être soumis les uns aux autres. Ça, celui-là, on va se l'imprimer, on va l'accrocher dans la cuisine. Parce que c'est ça qui maintient la communion avec le Saint-Esprit. C'est cet environnement qui fait que mon esprit garde cette conscience qu'il est là et il y a cette fluidité dans nos échanges et notre relation. Le mot consolateur, je sais que vous savez, mais je veux vous le rappeler. Le mot consolateur, c'est le mot parakletos en grec. Parakletos, ça veut dire le défenseur, ça veut dire le soutien, ça veut dire l'avocat. Celui qui te soutient littéralement par-dessous les épaules. Le mot parakletos, le parakletos dans la société grecque, c'était littéralement un avocat ou un assistant juridique qui venait t'aider dans un procès. Il est un défenseur. Alors moi, j'ai une question pour vous. Mais il nous défend de quoi? De quoi il nous défend? Peut-être quelqu'un va me dire, il me défend du diable. Faux. Parce que celui qui te défend du diable, c'est Christ. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour toi. Il a dépouillé les autorités et les dominations pour toi. Le Saint-Esprit, je vais te dire de qui il te protège, de qui il te défend, de quelle accusation il te défend. Il te défend de tes accusations à toi contre toi-même. Parce que ton plus grand accusateur, c'est toi. Parfois, le diable est au chômage. Il nous regarde, il dit « Oh, avec lui, je suis tranquille. » Parce que des fois, on se condamne tellement. Combien de fois on a des mots envers nous-mêmes ? C'est « J'ai perdu trop de temps, j'arriverai pas, c'est fini pour moi, c'est plus d'actualité, ça c'est pour quelqu'un d'autre. » C'est que des mensonges. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de venir te défendre. Il est un avocat. Quand tu es en communion avec lui et que tu commences à dire « C'est trop tard », le Saint-Esprit vient, il te dit « Arrête-toi, c'est pas trop tard. Je suis avec toi. Tu es cassé, tu es brisé, je suis le réparateur. Je suis le constructeur, je suis celui qui relève. Je suis celui qui établit, qui élève. » Il vient, la première chose qu'il fait, c'est qu'il vient éteindre ce que tu fais toi-même de mieux parfois contre toi, c'est que tu t'accuses. Il est dit dans Jean 16, au verset 13, Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans quoi ? Dans toute la vérité. » Mais c'est quoi cette vérité ? C'est quoi cette vérité ? Dans quoi est-ce que tu vas me conduire, Seigneur ? Tu vas me conduire dans la vérité qui est la parole de Dieu. Donc en fait, je prends la Bible et le Saint-Esprit me conduit dans les versets. C'est quoi cette vérité ? Ça veut dire que tout ce que je vais faire sera totalement parfait, je ne raterai jamais rien ? C'est ça toute la vérité ? Alors s'il y a quelqu'un ici qui ne rate jamais rien, lève-toi de suite. Tu peux nous imposer tous les mains. Ou peut-être même tu es un ange, tu ne le sais pas toi-même. Quelle est cette vérité ? Eh bien, voici ce que je crois profondément. Quand je lis la théologie générale de ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit, et c'est pas, on aurait pu faire des cours entiers sur ce thème-là, mais la première des choses, cette vérité que le Saint-Esprit est venu, dans laquelle il veut t'emmener, c'est qu'il veut que tu deviennes le vrai toi. Il veut que tu sois celui qui a été pensé par Dieu dans son éternité. Quand tu arrives sur cette terre, tu es un paquet de promesses, un paquet de cibles que Dieu veut toucher dans ce monde, un paquet de bénédictions que Dieu veut libérer et relâcher au travers de toi. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait ? À chaque fois que tu dévies, à chaque fois que tu te mets à te condamner, à chaque fois que tu laisses les circonstances obscurcir ta vue, à chaque fois que tu crois que tu as trop péché, le Saint-Esprit vient et te dit « Je te ramène dans la vérité. Je veux te présenter quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est toi-même. Tu as été créé dans le cœur du Père. Ah, n'oublie pas qui tu es. » Rappelez-vous Pierre. Pierre, avant la Pentecôte, était retourné à sa vie de pécheur. La première des choses qui prend place à la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit l'attrape et lui dit « Mon ami, je vais te faire devenir ce que Jésus a dit de toi. Tu seras Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » La première des choses que le Saint-Esprit, c'est qu'il l'a introduit dans sa vraie destinée, dans ce pourquoi il était fait. Et ça, c'est la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. La vérité, ce n'est pas ce que tu dis de toi. La vérité, ce n'est pas tes talents. La vérité, ce n'est pas tes possibilités financières ou ton environnement de connexion. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Et cette vérité, tu peux la découvrir qu'en étant en communion avec le Saint-Esprit. Parce que lui, il te ramène sans cesse. Parce que voici une vérité. Tous les jours, tu dévies. Tous les jours, tu as envie d'être quelqu'un d'autre. Et tous les jours, le Saint-Esprit veut te ramener. N'oublie pas, t'es ça. Tu es cette femme-là, tu es cet homme-là. Tu es ces promesses pour quelqu'un. Tu es cet appel, ce ministère. Tu es ce que je t'ai dit. Il te conduit dans la vérité. C'est quoi la vérité ? C'est qu'il te rappelle sans cesse le vrai visage du Père. Ça, c'est une vérité. La vérité que Dieu est là et Dieu est pour toi. Dieu travaille avec toi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu travaille vraiment avec toi. Dieu est vraiment pour toi. La vérité, c'est qu'il y a je ne sais même pas comment l'exprimer avec des mots. Il y a la grâce qui a été libérée pour nous. Et ça, je n'ai pas de mots pour ça. Je trouve que le mot même qu'on a en français, grâce, il ne correspond même pas à la profondeur de ce que c'est, à l'immensité de ce que c'est. La grâce, c'est le moyen que Dieu a trouvé pour que jamais l'ennemi ne puisse te voler ce que Dieu a prévu pour toi. Tu peux toujours revenir, sans cesse, jusqu'à la dernière seconde. tu peux revenir. Et tu rachètes le temps. Et des personnes qui disent, oui, mais celui qui s'est converti à 80 ans, 94 ans, 96 ans, moi, ma grand-mère, elle s'est convertie, elle avait 92 ans. Comment, est-ce qu'elle est rentrée dans l'appel de Dieu pour sa vie? Qu'est-ce que le jour où elle s'est convertie? La Bible dit que par la foi, certains ont obtenu, par la foi, certains n'ont pas obtenu. Le jour où elle s'est convertie, tout ce que Dieu avait placé en elle, même si elle ne l'a pas vu, ça a été libéré en notre faveur à nous, les enfants, petits-enfants, tous ceux qui venaient d'elle. Donc ne crois pas que c'est trop tard. Le temps est toujours racheté. Lorsque je reviens dans la grâce, la vérité, c'est que je me reconnecte à la vérité de qui est mon Père. Il est mon Père, il est dans les cieux, il est bon, il est avec moi. Il est bon, il est avec moi, il a ouvert la grâce infinie au travers de Jésus-Christ. La vérité, c'est ce que Dieu a dit que tu étais. La vérité, c'est que tu as tes pensées sont assainies, tu as la bonne perspective. Frères et sœurs, des fois on est là, on réfléchit, on n'a pas la bonne perspective, c'est parce qu'on a oublié que le Saint-Esprit est là. Tu sais que quand tu as le Saint-Esprit, la perspective, elle est simple. C'est que tu es bien. Est-ce que vous croyez que l'homme spirituel, c'est tout d'avance? Moi, je suis toujours étonné. Il y a des gens, ils sont ultra spirituels. Ils m'expliquent leur vie à 15 ans. Cette nuit, j'ai bataillé toute la nuit avec un moustique. Toute la nuit. Je ne suis même pas capable de l'empêcher de faire bzzz dans mon oreille. Et par contre, j'ai la perspective de l'éternité. La paix dont Jésus parle est connectée avec le Saint-Esprit. On va finir par ça. Quand je réalise qu'il est là, qu'il est avec moi, eh bien, tout change. Je suis saturé de paix, saturé de sa grâce, saturé de sa vie. Je me reconstruis, je me rebâtis. Juste cette pensée que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il est là et que éternellement il est là, dans les bonnes ou les mauvaises saisons. Et je termine par ce par quoi j'ai commencé. Trop d'entre nous, nous ne savons pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Si le Saint-Esprit est là, chaque instant est un moment où tu peux recevoir, où sa présence peut littéralement te saturer. Si, vous savez, quand quelqu'un est là, il y a plusieurs choses qui se passent. Mais déjà, souvent, on entend la voix de quelqu'un, non? Quand quelqu'un est dans ta maison, tu entends sa voix. Quand quelqu'un est dans ta maison, souvent tu vas avoir le contact avec lui, le contact physique. Moi, mes enfants, ils savent que quand ils se lèvent, par exemple, la première des choses que je veux faire, c'est faire un câlin. Et la dernière chose aussi de la journée, il y a un contact physique, il y a de l'affection, il y a de l'échange, il y a la possibilité de vivre quelque chose de relationnel à chaque instant quand quelqu'un est dans ta maison. Avec le Saint-Esprit, c'est pareil puisqu'il est là, puisqu'il est éternellement avec toi, puisqu'il est présent. Maintenant, je termine par ça. Nous n'arrivons pas à recevoir ou nous ne savons pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'à la base, chacun d'entre nous, nous avons ce que la Bible appelle un esprit d'orphelin. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit va venir et il va changer ça. C'est quoi un esprit d'orphelin? Un esprit d'orphelin, c'est quand je crois que je ne suis pas aimé, par exemple. Un esprit d'orphelin, c'est quand je veux gagner l'affection par des efforts. Un esprit d'orphelin, c'est quand je ne suis pas sûr des intentions de l'autre. Je n'ai jamais connu ce qui était vraiment une relation filiale, alors je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on me veut vraiment du bien? Est-ce que c'est possible que quelqu'un soit désintéressé au point de me vouloir du bien? Est-ce que c'est possible que quelqu'un veuille que je réussisse plus que lui? Un état d'esprit d'orphelin, c'est de ne pas connaître l'amour du Père et de vouloir connaître l'amour du Père en le gagnant. Eh bien, quand le Saint-Esprit vient, tout ça, ça s'en va. Il lutte contre cet état d'esprit d'orphelin. C'est pour ça que tu peux avoir beaucoup d'assurance cet après-midi et dire, Saint-Esprit, je suis avec toi et je vais recevoir. Je vais recevoir ta présence, je peux recevoir ta parole, je peux recevoir tes dons. Je ne sais pas moi ce que le Saint-Esprit peut faire maintenant pour toi. Je peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais ce que je sais, c'est qu'il est là. Et que parce qu'il est là, dans le nom de Jésus, l'esprit d'orphelin est balayé. Je n'ai pas à gagner. Tu n'as pas à gagner. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, j'étais tout début, jeune ministère, et le pasteur avec qui je travaillais, j'étais pasteur de jeunesse depuis quelques semaines, m'a dit, est-ce que tu peux prêcher aux jeunes sur le baptême du Saint-Esprit ? Et moi, avec ma grande carrière chrétienne, j'avais 5 ans de vie chrétienne, à peu près 5-6 ans, 4 semaines de ministère, un trimestre d'école biblique, c'est-à-dire je savais tout. J'ai dit, OK, je vais faire un message. Et j'ai commencé mon message, j'ai écrit « Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit ?» Premier point, et je marque, je me revois dans mes notes. Premier point, la sainteté. Et j'ai cherché un verset qui argumentait l'esprit d'orphelin que j'avais. Parce que quand tu as un esprit d'orphelin, tu penses que tout est méritoire. Que tu n'es aimable que parce que tu fais les choses bien. Et j'ai cherché le verset. Mais tu sais quoi, Rome ? Je n'ai toujours pas trouvé. Parce que la parole de Dieu nous présente le Saint-Esprit comme celui qui est là tout le temps. Paul dit aux Corinthiens, c'est le scandale dans votre église. Et pourtant, l'Esprit de Dieu agit avec puissance. Je paraphrase, il n'a pas dit le mot scandale. Il a dit pire que ça, en fait, mais bon. Mais en fait, il n'y a aucune connexion entre le fait que je sois quelqu'un d'aimable et l'amour de Dieu pour moi. Alors, j'aimerais juste qu'on fasse une chose cet après-midi. Si on peut tous se lever, et j'aimerais qu'on puisse recevoir. J'aimerais qu'on puisse recevoir. Je vous lis un dernier verset parce que celui-là, il est trop bon. C'est le dernier verset, Linda, s'il te plaît. Regarde, celui-là. Alors, celui-là, les amis. Si vous devez en afficher un sur le frigo, s'il y en a un qui doit vous faire la hola, c'est celui-là. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Il n'y a pas écrit de joie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance. C'est-à-dire que, il termine par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi Paul prie comme ça? Parce que Paul, il vivait une réalité. Il sait que tu peux avoir de la joie, il sait que tu peux avoir de la paix et il sait qu'il y a des jours où tu as beaucoup d'espérance. Mais là, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, il faut que vous découvriez quelque chose. Les amis, il faut qu'on découvre quelque chose. Le Saint-Esprit est là. Il est avec toi. Et il communique sa vie en toi. Et là, Paul dit, on va faire une prière, mais un truc de fou. La prière que je fais, c'est que vous ayez toute joie. Pas la petite joie, la vraie joie. Toute joie. Le top de la joie. Pas la joie religieuse, pas la joie du citron vert dans lequel tu as mordu. La vraie joie. D'accord ? La joie, toute paix dans la foi. C'est-à-dire que tu arrives à un endroit où il n'y a plus rien qui peut t'ébranler, tu es dans la paix. Tu es dans la paix. Et continue. Et alors moi, ça c'est un truc. Et tu débordes d'espérance. Ça veut dire quoi déborder d'espérance ? Ça veut dire que tu regardes à demain et tu te dis, mais ça, on va tout casser. Qu'est-ce qui va arriver ? Je suis plein d'espérance. Je déborde d'espérance. Tu regardes derrière toi, tu dis, waouh, j'en ai vécu des trucs, mais c'est rien. J'ai hâte à demain. C'est ça, déborder d'espérance. J'ai hâte à demain. J'ai hâte d'avoir 70 ans. Tu vois des trucs. Et là, mais c'est inhumain, on est d'accord. Il y a Jacques. Mais j'ai hâte, en fait, que tu débordes d'espérance. Et c'est là où tu comprends une chose, frères et sœurs, c'est là où tu comprends une chose, c'est que le chrétien, il n'est pas normal. Dis à la personne à côté de toi, t'es pas normal. Parce que ça, déborder de joie, déborder de paix, déborder d'espérance, ça n'existe pas. Ça existe peut-être 10 minutes après le culte. Mais demain matin, à 5 heures du mat, tu ne débordes pas d'espérance en te réveillant. Sauf si tu vis cette réalité de la communion avec l'Esprit. Ça coule en toi. Tu es perpétuellement en train d'être renouvelé parce que tu es en relation avec lui. Donc je prie maintenant dans le nom de Jésus pour nous, comme Paul a prié, que nous puissions comprendre. Saint-Esprit, que tu puisses ôter le voile de nos yeux et que je prie maintenant pour une manifestation particulière de ta présence dans la vie de mes frères et sœurs. Que tu puisses attester ce message par ta présence d'une manière spécifique pour plusieurs. Je crois vraiment que le Saint-Esprit est capable, c'est la Bible dit qu'il est en toi et il est autour de toi. Il est capable de te prendre dans ses bras, il est capable de te faire bouillonner ton esprit à l'intérieur. Il est capable et je prie cette prière. parce que tu es là et que tu es éternellement là. Je prie pour tous ceux et celles qui sont rentrés peut-être dans ce lieu et qui n'ont pas conscience que tu es là. Ou celui ou celle qui croit que tu passes ton temps à venir et partir. Je prie, Père, que cette vérité s'enracine dans les cœurs. S'enracine, que les mensonges du diable, ces faux raisonnements de croire que tu t'en vas parfois, soient brisés dans le nom de Jésus. Je déclare cette vérité, tu es éternellement avec moi.
Amen, amen.
Tu es éternellement avec moi. Tu es en moi, tu es avec moi, tu es sur moi. Et à cause de ça, tout est possible. Je déborde d'espérance.
Amen.
Parce que tout devient possible. Le temps est rempli de possibilités. Je prie maintenant même, dans le nom de Jésus, que ta présence, Saint-Esprit, puisse venir nous balayer, viens faire ton œuvre, ton ministère. Je prie peut-être aussi pour celui ou celle qui est fatigué en ce moment. Tu es celui qui travaille en nous. Tu es celui qui nous rebâtit. Tu es celui qui nous relève. Tu es celui qui nous restaure. Tu nous ramènes dans la vérité. Je prie cette prière. Ramène dans la vérité celle qui s'est éloignée. Ramène dans la vérité celui qui a oublié les promesses, qui a oublié ce que tu as dit hier.